Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Bonjour, je m'appelle Alice Vacher et avec l'agence de podcast Bababam, nous avons décidé de lancer l'empreinte. Nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de PDG de grands groupes, de directeurs de la communication, de la RSE, qui se battent chaque jour pour valoriser l'image, l'empreinte de leur entreprise. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Moreau, le fondateur de Phoenix. Bonjour Jean.
Bonjour Alice.
Avant de nous parler de Phoenix, j'ai envie de revenir sur ton parcours à toi, ton parcours scolaire. Quel élève tu étais ?
Eh bien moi, je faisais plutôt partie des bons élèves. J'ai eu un parcours académique classique où j'ai fait une terminale S, donc plutôt scientifique, et ensuite deux ans de prépa.
Quel spé ? Parce que moi j'ai fait spé physique chimie qui m'a énormément servi.
Ouais, moi aussi physique chimie. Spé physique chimie.
Regarde où on est, c'est vrai qu'on
C'est clair. Et après j'ai fait deux ans de prépa HEC, prépa école de commerce. Moi je viens de Toulouse donc je suis du sud-ouest. Je suis resté jusqu'à 20 ans là-bas.
Le stade a gagné.
Ouais, exactement. Et ensuite à 20 ans j'ai passé les concours et j'ai terminé à l'ESSEC, mon école de commerce à Cergy-Pontoise où j'ai passé 4 belles années. En parallèle de quoi j'ai fait un peu de droit à la fac de Cergy pour par curiosité intellectuelle et pour me donner un peu de densité, parce que l'école de commerce, c'était cool en tant que en terreau d'épanouissement perso, dans les assos, la vie du campus, tout l'extrascolaire, mais je trouvais que le scolaire était un peu light, comparé à la prépa où on faisait beaucoup de philo, d'histoire, de lettres et tout. Donc j'avais envie de retrouver un truc un peu plus intellectuel, un peu plus dense. Donc j'ai fait du droit, ce qui me sert à rien aujourd'hui, mais je suis allé au bout de la licence. Ça me sert à rien à part avoir une petite culture G de droit quand je parle à mon avocat et pas être un puceau dans une négociation avec des fonds d'investissement. Et après tout ça, je savais toujours pas ce que je voulais faire, donc j'ai fait Sciences Po en affaires publiques, 2 ans, pour donner une coloration intérêt général à mon parcours. Donc j'ai passé le concours d'admission parallèle pour arriver en 4e année de Sciences Po. Ce qui est bizarre de le faire dans ce sens-là, franchement, parce que Sciences Po, c'est une école très, assez peu appliquée, hein. C'est une école qui est dans le post-bac et qui prépare à l'ENA ou au concours de la fonction publique. Et quand on sort d'une école comme l'ESSEC où on a fait 3-4 stages,
ouais,
on est quasiment prêt à bosser. Je suis revenu 2-3 ans en arrière où...
Et c'est parce que tu savais pas ce que tu voulais faire
je savais ce que je voulais faire. Je savais que j'avais pas l'âme d'un businessman pur et dur. Je voulais pas, c'est une caricature, je voulais pas marketer d'ailleurs à la fraise ou vendre des crèmes de beauté. J'aspirais à autre chose. Donc je voulais essayer de faire la jointure entre l'intérêt général et un métier purement mercantile, quoi. Et donc Sciences Po m'a apporté une coloration, utilité publique, intérêt général, qui se retrouve dans Phoenix, on y reviendra, mais il y avait déjà ça, du coup, quelque part en moi, quoi. C'est que je me sentais pas de foncer tout droit dans les grosses boîtes du CAC 40 classico-classique. Je voulais faire un détour.
Il y avait pas de marque qui t'inspirait, que t'aurais aimé rejoindre ou?
Si, forcément. Alors, je pourrais pas. À l'époque, moi, je me voyais bien bosser dans... limite en politique, quoi, en cabinet ministériel ou un peu dans l'ombre, quoi, dans les ficelles.
Pas le côté marque finalement.
Pas forcément. Ouais. Plus dans servir l'intérêt général et faire avancer les choses et mettre mes compétences au service d'une cause. En l'occurrence, c'était ça aurait pu être celle de la politique, mais finalement, j'ai pas eu le courage de passer l'ENA parce que j'étais un peu en overdose d'études. Après 2 ans de prépa, l'ESSEC, une licence de droit à Sciences Po, ça voulait plus rien dire, quoi. Il fallait que j'arrête la fuite en avant, il fallait que je me mette à bosser, à apprendre à travailler, à gagner de l'argent et à rentrer in real life, à sortir de la caricature du surdiplômé français.
Et t'as fait quoi du coup avec tous tes diplômes ?
Et ben tout ça pour ça, parce qu'en fait j'ai commencé en banque d'affaires dans la finance. Donc j'avais fait un stage de fin d'études à l'ESSEC où j'avais eu, ça s'était bien passé pour moi, dans une banque américaine qui s'appelle Merrill Lynch. Et j'y suis retourné à 25 ans du coup. Et j'ai fait ce qu'on appelle des fusions-acquisitions, du M&A, c'est-à-dire faire rapprocher des grands groupes entre eux, valoriser les boîtes, faire tout le processus d'acquisition, faire monter les enchères.
C'est réputé être très dense en matière de travail.
Ouais, c'est des métiers qui sont très exigeants. On bosse avec des gens qui sont assez sharp, quoi, qui avancent plutôt vite et bien, et qui du coup qui tirent vers le haut. Et ce qui est agréable dans les boîtes américaines, c'est que déjà ils prennent le temps de former les juniors, parce qu'ils capitalisent pas mal là-dessus. C'est très c'est très méritocratique. C'est beaucoup moins politique qu'une boîte française. C'est assez manichéen aussi. Hein. Les meilleurs montent et les mauvais sont sortis sans trop de scrupules. Mais en tout cas, les gens prennent le temps de vous former en tant que junior et puis de vous mettre en avant quand vous êtes bon. Et puis après, on est aussi, il faut le dire, très bien traité, très bien rémunéré. Et ça permet du coup de prendre un risque derrière. Quoi. Moi, c'était mon calcul. Je me suis dit, je vais commencer là-dedans, je vais bien me former, je vais accélérer ma carrière et je vais mettre un peu d'argent de côté aussi pour derrière pouvoir éventuellement prendre un risque entrepreneurial. Et c'est ce qui s'est passé.
Yes. Et c'est là que tu as eu l'idée de Phoenix, ou c'est quelque chose qui a mûri, qui a pris du temps à mûrir, ou tu as déjà fait autre chose avant?
Moi, j'ai passé 5 ans en M&A chez Merrill, donc c'est pas le projet de Phoenix qui a mûri, c'est plutôt la quête de sens. C'est-à-dire que j'ai pas eu de switch radical, je me suis dit, ok, c'est fini, je claque ma dème, je peux plus, je tiens plus. C'est plutôt une montée en puissance progressive, où je me sentais un peu comme une sorte de petit hamster dans une roue. Je me dis, ok, je fais du, parce qu'en fait, j'avais des gros horaires, hein. Je faisais entre 80 et 100 heures par semaine. Et donc, je me disais, quand je sortais des rendez-vous à la Défense ou dans les gros bureaux haussmanniens, ok, est-ce que mes compétences sont bien utilisées? Est-ce que mon énergie est mise à bon escient? Est-ce que je m'épanouis? Est-ce que je suis heureux? Et honnêtement, j'étais pas malheureux parce que l'ambiance était pas aussi dure que ce qu'on raconte sur la banque d'affaires. Il y avait des gens très bien. Le métier est quand même assez grisant, assez stratégique. Il y a un côté assez excitant. C'est toujours des trucs un peu confidentiels qui sont... si on se projette, on se dit qu'on redesigne un peu tout le paysage industriel français en faisant fusionner GDF et Suez, Total, et etc. En vrai, c'est quand même un gros boulot d'exécutant. On fait beaucoup d'Excel, beaucoup de PowerPoint, des tâches assez basiques. Et on est très souvent en back-office, dans les bureaux. On voit pas beaucoup de clients, on voit pas beaucoup de... Le monde, le vrai monde du business. Donc j'étais pas malheureux, mais voilà, ça manquait de sens et je me disais mes compétences sont aujourd'hui pas vraiment bien utilisées, quoi. Tout ce travail, toute cette énergie est mise au service du CAC 40 pour faire des ajustements à la marge et pour faire fusionner des boîtes et pour céder des activités. Enfin, c'est pas ce que je veux faire. Et en fait, j'ai voulu aligner mes aspirations personnelles, mes intérêts, mon parcours avec mon quotidien pro. Je me rendais compte que tous les week-ends ou même le soir, quand je voyais des potes pour boire une bière ou quand j'avais un dîner le samedi, je me plaignais, quoi. Je chouinais. Je disais, ouais, ça va, ça se passe bien,
quel
etc.
Numéro.
Mais mon métier, je tourne en rond depuis 5 ans. Enfin, en tout cas, je vois pas le sens du truc. J'ai pas de rôle modèle. C'est-à-dire que mes boss me donnent pas, je veux être lui dans 10 ans, il a une vie trop cool. Ok, ils sont très riches. Ils ont chopé plein de bonus.
Mais j'avais
pas envie de leur ressembler. Donc ça, c'était un truc qui me manquait. Et donc tout ça dans un shaker fait que on est au party shaker. Tout ça dans un shaker fait que je me suis dit, ok, maintenant il faut que j'assume ce mal-être, mais par contre que je passe à l'action, quoi, que j'arrête de me plaindre, de pleurnicher, et que je dise, ok, si vraiment je suis pas heureux ou pas épanoui, j'ai toutes les cartes en main pour quitter ce truc-là et pour partir de zéro. Donc c'est ce qui s'est passé. Et après j'ai commencé à grenouiller dans ce qui était à l'époque un peu naissant en 2012-2013, qui était ce qu'on appelle en France l'entrepreneuriat social et solidaire. Ce que les Anglais, et je préfère cette expression, appellent le social business, c'est-à-dire un business, mais avec au cœur du réacteur la volonté de changer les choses et d'avoir un impact social et ou environnemental, et idéalement les deux. Donc j'ai commencé à grogner dans ce truc-là qui était nouveau, enfin pas nouveau parce que ça existe depuis quelques années déjà, mais qui était pas encore aussi à la mode qu'aujourd'hui. C'était pas la mode de l'impact, de la tech for good, c'était beaucoup moins sexy que ça. Mais je sentais que c'était une tendance de fond, que... Les jeunes générations voulaient mettre leurs compétences au service de trucs utiles. Et moi, en tout cas, c'était ma démarche. Donc, on a commencé comme ça. J'ai trouvé mon associé dans cet univers-là.
Donc, c'était dans des espaces de coworking que tu faisais ça?
Ouais, des incubateurs, des espaces de coworking, des soirées de networking. Il y a pas mal de structures comme des incubateurs comme Entropia, La Ruche, qui font ce genre de trucs, qui organisent des rencontres entre porteurs de projets et écosystèmes. Et ça m'a donné envie. Je me suis dit, en fait, ce que je veux faire, c'est ça. Je veux pas renier mon côté business que j'ai de par ma formation et de par mes premières années d'expérience. Donc, je veux monter une boîte, je veux pas monter une asso, ni une fondation, ni une ONG, je veux rester dans le for profit, mais dans le profit raisonné et dans le profit qui a du sens et qui a de l'impact. Et je trouvais que le social business, l'entrepreneuriat social et ce qui est devenu un peu le tech for good maintenant était une bonne synthèse de tout ça. Un truc qui soit à mi-chemin entre le monde des ONG où l'argent est tabou et c'est du bénévolat, qui a ses limites intrinsèques, et on n'a pas le droit d'avoir de l'ambition, en tout cas c'est mal vu, on n'a pas le droit de gagner de l'argent, on n'a pas le droit de lever des fonds, enfin pas le droit, c'est pas la culture de ce milieu-là. Et de l'autre côté du pendule, il y avait le monde du capitalisme traditionnel, à l'ancienne, qui avait traversé déjà la crise de 2008-2007, qui n'était pas en grande forme, et qu'il fallait réinventer, et, Et moi, j'avais l'intuition avec mon associé Baptiste qu'il y avait une voie médiane, quoi, qu'on pouvait être à mi-chemin entre le non-profit et le capitalisme à l'ancienne, qui pense que croissance, rentabilité, dividendes et actionnaires. Et qu'au contraire, il fallait arrêter les opposés, il fallait faire plutôt la synthèse et dire, il y a une voie médiane qui est une sorte de capitalisme d'intérêt général, qui concilie impact et croissance, qui concilie rentabilité et externalité positive. Et donc c'est le pari qu'on a fait et on est en train de gagner, mais on n'est pas les seuls, hein, heureusement, parce que si on était tout seul, on n'arriverait à rien. On est quelques boîtes maintenant qui montrent que on peut tout à fait aligner vigilance écologique et ambition de start-up classique.
Et parle-moi du coup un peu de Phoenix pour tous ceux qui vont nous écouter. Redis-moi un petit peu ce qu'est Phoenix et puis comment est venue l'idée du nom aussi, parce qu'il y a quand même un branding. Finalement, c'est une entreprise, donc c'est une marque que tu crées. Toi qui es issu de la finance, issu avec S, etc. Est-ce que tu as fait appel à des équipes de marketing? Bref. Raconte-moi un petit peu tout ça m'intéresse.
Alors chez Phoenix, qu'est-ce qu'on fait ? On est dans la réduction du gaspillage, on est les bâtisseurs d'un monde sans déchets, sans gaspillage, et donc on accompagne plusieurs types d'acteurs, mais essentiellement la distribution, donc Franprix, Carrefour, Leclerc, Casino, Intermarché, Bio C'est Bon, La Vie Claire, etc. Mais aussi des commerçants de quartier, ou des industriels même carrément, comme les Deux H, Nestlé ou Innocent, et on les accompagne dans la deuxième vie de leurs invendus, et ce à travers trois canaux. On essaie d'éviter la poubelle, l'incinération, l'enfouissement de tous les produits qui sont en fin de cycle, en fin de vie. J-3, J-2 par rapport à la péremption, qui ont un défaut de production, qui sont une fin de stock, un changement de packaging, un changement de marque. Auparavant, ces produits étaient détruits. Et nous, les marques, nous les confient. Et qu'est-ce qu'on en fait? En premier temps, on les propose aux consommateurs, à travers une application mobile grand public, B2C, qui est dispo sur tous les stores. Donc, j'invite les auditeurs à la télécharger sans plus tarder sur iOS et Android. L'appli Phoenix, il permet de racheter à prix cassé des invendus dans les commerces de proximité. Donc on se log sur l'appli, on voit tous les magasins autour et ils vont balancer des produits. Il y en a pour 12 euros de valeur médiane.
Et la date de péremption est...
C'est en général des produits qui périment le lendemain, le surlendemain ou même le jour J.
D'accord, c'est le principe. Par exemple, quand on sait que les œufs, même si la date de péremption est indiquée, elle peut être dépassée. Phoenix, par contre, vous pouvez pas la dépasser également.
Non, il y a en fait, si on rentre dans la technique de l'alimentaire, il y a deux types de dates. Il y a ce qu'on appelle les DLC, donc date limite de consommation. Ça concerne typiquement les œufs, les laitages, le jambon, le poulet, le saumon, etc. Enfin, le poisson, tous les produits qu'on appelle frais ou ultra frais. Et cela, c'est à consommer jusqu'au. Ce qui veut dire qu'après, c'est encore consommable, mais c'est pas recommandé forcément. Et en tout cas, c'est plus vendable en l'état, ça c'est clair.
Donc vous, par exemple, vous pouvez pas les
vendre. On peut plus les vendre. En revanche, il y a une autre catégorie de date limite qui s'appelle la DLUO, qui est devenue la DDM, date de durabilité minimale. Et donc ça, c'est à consommer de préférence avant le. Donc c'est une subtilité, hein, parce qu'il y a à consommer jusqu'au et de préférence avant le. Et de préférence avant le, ça concerne les biscuits, les pâtes, le riz,
ou même ils sont juste moins bons en termes de goût, voilà. Mais il n'y a pas de risque sur la santé.
Le soda va perdre des qualités pétillantes, le biscuit va être un peu moins craquant, les pâtes vont être pareil un peu plus molles, mais elles perdent des qualités qu'on appelle organoleptiques.
Peut quand même les redistribuer.
Nous, on peut les redistribuer. Elles sont largement consommables jusqu'à 12, 18, 24 mois après la date, légalement. Elles sont même vendables après la date. Il y a des déstockeurs qui ne font que de la DLUO dépassée. Et nous on le fait aussi, nos clients le font parfois, enfin voilà. Donc la première étape c'est ça, c'est on revend aux consommateurs sur une application les invendus des commerçants de proximité à petit prix. Ça permet à tout le monde de s'engager contre le gaspillage et de faire un petit geste. Dans un deuxième temps, après le conso, on bascule chez les assos, et donc ce qui n'a pas été racheté par le conso sur notre appli mobile est proposé en don alimentaire au Resto du Cœur, à la Banque Alimentaire, au Secours Populaire, au Secours Islamique, au Secours Catholique, dans une logique de solidarité et in fine auprès des plus démunis, donc des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des courses classiques. Et dans un troisième temps, après les consos et les assos, on bascule le résidu chez des animaux, ce qui signifie qu'en fait des fruits et légumes moches qui ont été trop trafiqués, qui sont trop noircis, typiquement dans un Leclerc, le pain rassis du matin, les viennoiseries.
Peut donner aux canards.
Voilà, on va pas le donner. Les consos vont pas le racheter parce que c'est trop dur, c'est pas bon. Les assos non plus, parce que les assos ne sont pas là pour récupérer les restes de mauvaise qualité. En revanche, dans la même logique de Phoenix, c'est toujours mieux de dire, je préfère le donner à la SPA du coin, au centre équestre, à la porcherie, au parc animalier, plutôt qu'à la poubelle, à l'incinérateur, à la décharge ou en enfouissement sous terre. Donc voilà, avec ces trois canaux, conso, asso, animaux, la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à vider les poubelles.
C'est génial.
Qu'elles sont vides et que quelque part, On a vocation à remplacer le prestataire historique de traitement des déchets que je ne citerai pas, mais qui jusqu'à maintenant louait une poubelle, faisait venir un camion poubelle, emmenait ça en centre de tri, et puis ensuite mettait en décharge, en incinération, en enfouissement. Nous, on essaye de remettre du bon sens au cœur du système et de faire en sorte que les invendus et les déchets des uns deviennent une matière première pour les autres. Et c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire, où les déchets sont perçus comme une ressource et non pas comme une contrainte, un poids et une source de problème.
Et pourquoi alors du coup le nom Phoenix ?
Alors le nom Phoenix, dans l'histoire, enfin dans
c'est
la, dans
une petite idée.
Comme dans les fables de La Fontaine, il y a une double détermination. Il y a un premier sens littéraire qui est est-ce qu'on fait des produits, c'est-à-dire que les produits sans nous seraient détruits, incinérés. Et tel un phénix, ils renaissent de leurs cendres grâce à notre activité. Et donc, ils retrouvent une seconde vie. Ça, c'est l'allusion...
C'est l'incinération.
Voilà. l'allusion la plus claire à notre activité. Et pour ceux qui connaissent la petite histoire, c'est aussi une allusion à notre parcours entrepreneurial. Parce qu'au départ, on était non pas deux chez Phoenix, mais on était trois. Sous une autre marque, d'ailleurs. Peu importe. Et en fait, on a eu une crise de gouvernance assez forte. On a fait une erreur de casting et on a dû se séparer du troisième associé. Dans des conditions qui ont été compliquées à vivre. Donc, Phoenix, c'est aussi une allusion à cette histoire-là, où on était parti, puis ça a été compliqué, et Phoenix était le redémarrage de notre aventure entrepreneuriale avec Baptiste.
Et le bleu ?
Le bleu, c'était pour... ça nous paraissait moins galvaudé que le vert.
Oui, c'est vrai. Parce que, en fait,
blue
c'est
was
aussi
the new green à l'époque. On voulait pas créer un logo vert avec la petite flèche du recyclage qui a été vu 50 000 fois, donc on avait fait le côté bleu pour l'aspect tech aussi. Et voilà. Pour le...
Ouais, c'est du pur marketing, par contre.
Pur marketing, ouais. Pur marketing. Mais sans trop poser de questions non plus, hein, franchement.
Est-ce que l'idée qui est aujourd'hui, qui fait le business model de Phoenix, c'était l'idée naissante? Souvent, les entrepreneurs réinventent tout le temps leurs idées, l'adaptent, c'est normal, hein, ils la réadaptent, ils la construisent. Est-ce que toi, c'était ton idée de base que aujourd'hui tu...
Non, c'était pas mon idée et c'était pas ce qui est devenu Phoenix. Nous, l'idée de départ, c'était celle de, c'était une expérience perso entre nous, fondateurs. Et en fait, le départ Phoenix, c'était du site aussi. On a fait, comme on appelle ça dans les startups, des pivots stratégiques où on a fait évoluer le modèle économique, la cible et tout. Mais au départ, on partait de l'économie collaborative et l'intuition, enfin, l'étincelle de départ, c'était le gaspillage dans les foyers, chez les consommateurs, dans les frigos. On se disait, moi, quand je pars en vacances, 3 jours, 4 jours, une semaine, 10 jours ou 3 semaines l'été, je me retrouve, si j'y pense avant, j'ai des invendus que je vais pas consommer. Donc, mais parfois je reviens et je me dis merde, j'ai laissé dans le frigo des produits périmés alors que j'aurais pu les donner. Mmh. Et donc on voulait trouver, on se disait, c'était en 2012, on se disait 13, est-ce qu'il y a pas une façon aujourd'hui avec la digitale, la tech, de mettre dans la main des consommateurs une petite application pour faire 2 choses, soit partager les restes ou les revendre à prix cassé dans une logique de proximité à son voisin, à sa copro, son concierge, à son voisin de palier deux étages au-dessus. Soit dans la même logique, les donner au SDF du coin ou à l'assaut du quartier. Donc on partait des petits volumes chez les consos pour embarquer tout le monde dans l'anti-gaspille en disant on va partager les restes, on va les revendre à, je sais pas, 5 centimes, 10 centimes de façon vraiment juste symbolique, mais...
Et ça t'a abandonné complètement?
Non, et du coup on a essayé ça, c'était le postulat de départ. Et en fait c'était des tout petits volumes assez éclaté, assez diffus, on allait récupérer. Enfin, les gens aimaient bien jouer le jeu, quoi. Mais on avait un paquet de pâtes chez une petite vieille, puis dans la famille d'à côté, on avait 2 pommes, puis un paquet de gâteaux. Donc l'idée était cool sur le papier, tout le monde adorait.
Ouais, mais c'est pas rentable pour.
Mais en vrai, c'était une purge opérationnelle en coulisses, et du coup, il y avait des problèmes de volumétrie, des problèmes de modèle économique, parce que les gens étaient prêts à jouer le jeu, ils trouvaient ça sympa, mais par contre, de là à payer une prestation intermédiaire, no way. Et troisième truc, il y avait des problèmes sanitaires. On sait pas On sait pas si les gens ont respecté la chaîne du froid, si ça a été congelé, décongelé, recongelé. Oui. Voire même, on sait pas s'ils ont inséré du cyanure avec une mini aiguille dans le yaourt. Donc, bref, plein de trucs qu'on anticipe pas quand on se lance, et qu'on croit avoir l'idée du siècle, et qu'en fait, on s'aperçoit en testant, ce qui est hyper important, c'est de faire ça, c'est de faire du test and learn, de tester, d'itérer, jusqu'au jour où on se dit, en fait, non, là, on va nulle part, donc, on va garder l'intuition de départ, digital au service de la réduction du gaspillage et de la redistribution. Mais on va basculer du C2C vers le B2B. Donc, d'un côté...
Un peu comme Zay a fait. Zay qu'on a reçu...
Ok.
Aussi. Ouais, c'est pareil. Ils avaient fait du... Non, eux, c'était B2C.
Ok.
Et puis là, B2B, pareil.
Ok. Donc, c'est assez fréquent.
Encore, en fait,
c'est assez fréquent. Et donc, voilà comment c'est devenu Phoenix. Et au départ, on avait un seul pilier, qui était le pilier du milieu, c'est-à-dire les assos. Parce que c'est important d'avoir un focus stratégique aussi quand on se lance. Faut pas vouloir tout faire. Donc, nous, pendant 2-3 ans, on a dit, ok, notre métier, c'est... digitaliser le don alimentaire, en faire un peu le nouveau standard et être sûr que dans tous les magasins de France, il y ait des assos qui soient branchés sur notre plateforme et qui récupèrent les invendus. Donc on a fait que ça, que du don aux assos, que une sorte de banque alimentaire 2.0. Et c'est que plus tard, plus récemment, qu'on a dû plugger en plus, en amont, notre application mobile grand public et en aval les animaux, mais au début on avait que la verticale don alimentaire. Donc le projet continue à évoluer tout le temps.
Et les next steps, c'est quoi?
Les next steps, c'est l'étranger.
Ah bah ouais.
L'étranger, parce qu'aujourd'hui on est fort en France. J'ai vécu
à Shanghai, t'as du travail là-bas.
Ouais, c'est un peu loin de nos bases pour le coup, mais pourquoi pas. Aujourd'hui, nous, on est 100, donc on était deux à l'origine en 2014, maintenant on est 130. Et on a 120 personnes en France, 118 personnes en France. On en a 7 au Portugal, qui commence à bien marcher. Il faut qu'on accélère, donc on va le faire. On en a 3 en Espagne, une à Madrid, on a 4 en Espagne, une à Madrid, une à Bilbao, un à Barcelone et une à Séville. Et pareil, on va accélérer, on va recruter 10 personnes en Espagne, là. Ensuite, on a Belgique et Suisse. Donc voilà, on a commencé à faire les petits pays limitrophes, assez proches culturellement de la France. Et derrière, si ça se passe bien, on ira dérouler les marchés qui comptent et qui pèsent, c'est-à-dire le UK, l'Allemagne, éventuellement l'Italie aussi, mais plutôt à horizon 2020-2021.
Tu vas exporter la marque telle quelle, le nom est multiculturel.
On l'avait choisi pour ça aussi.
Oui, je pense que
à peu près, sauf en Espagne où on dit Phoenix, mais c'est pas grave. On va se débrouiller.
Ça veut rien dire, ça n'a pas de...
Non, au contraire.
Très bien. Et est-ce que tu as des entrepreneurs qui t'inspirent, des marques qui t'inspirent aujourd'hui ou pas?
Ouais, il y en a pas mal. Moi, je milite pour un truc, c'est le décloisonnement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on est comme nous dans les modèles à impact, dans la tech for good, dans l'économie sociale et solidaire ou dans le social business, on est assez vite cornerisé en disant, OK, bah, c'est des gens qui sont, c'est pas des businessmen, c'est des gens qui veulent pas faire d'argent, c'est des hurluberlus. Et en fait, non, je pense qu'il faut qu'on arrive à rapprocher ce monde-là, de la tech for good, des boîtes à impact, et leur mettre plus dans le champ de la tech classique, de la French tech classique, et qu'on décloisonne. Donc moi, il y a plein de boîtes qui m'inspirent, ouais, dans la tech classique, et j'aimerais bien qu'il y ait des gens dans la tech for good qui aient autant d'ambition que des...
On passe un message, ça.
Que des Blablacar, que des Miro, que des Payfit, que des... que des Doctolib, que des Drivee, tous ces gens-là. Et il faudrait qu'on ait comme ça une licorne de l'impact, et qu'on ait une licorne de la tech for good.
Pourquoi pas Phoenix?
Bah, j'espère. Je sais pas si un jour la boîte vaudra 1 milliard d'euros. Je pense même que je sais que la réponse est non. Par contre, qu'on montre qu'on a ouvert la voie et qu'on montre que c'est possible, en fait. Nous, on vient de faire une levée de fonds de 15 millions d'euros il y a 6 mois. Donc c'est déjà bien. C'est rare des levées de ce montant-là. Mais c'est pas non plus des 70 millions, 100 millions ou 200 millions comme des Mano Mano ou autres. Mais, voilà, c'est tous ces gens-là qui m'inspirent. Les gens qui ont construit des belles boîtes tech, hyper scalable, hyper ambitieuse, avec des beaux produits, une belle culture de management et une belle culture d'ambition, mais qui sont moins posés la question du sens de leur activité. Et j'aimerais...
Toi, c'est important quand même.
Moi, j'aurais pas pu monter une boîte traditionnelle. J'aurais jamais pu monter une boîte qui vend des chaussettes en ligne ou une chaîne de pizza. C'est pas... Enfin, l'aventure entrepreneuriale en tant que telle, elle est super excitante. Peu importe le sous-jacent, à la limite, parce que c'est assez grisant d'être son propre patron, de créer de l'emploi, de créer une marque, de voir le truc décoller et tout, donc... Mais c'est encore mieux quand le projet ou le produit derrière a du sens, a de l'impact. Ça rajoute un supplément d'âme qui est hyper fort pour la motivation, pour recruter, pour attirer des talents, y compris en les payant un peu moins cher que les concurrents, parce qu'il y a une mission qui est cool et du coup ils sont contents.
Et toi, en plus, j'ai l'impression que t'es quand même plus discret en termes de communication. Tu te mets moins en avant en tant qu'ambassadeur de marque.
C'est un sujet, mais on commence à le faire. Sur la pression de ma directrice marketing et communication, le personal branding devient important.
C'est
mon métier. Ouais. Et donc, on va le faire. Et je commence à le faire un petit peu. Parce qu'en fait, les gens...
Si tu t'inspires de Guillaume Gibault, forcément...
C'est clair. Pour le coup, en termes d'inspiration, il est bien aussi. Je pense qu'il a réussi quelque chose de très fort, typiquement là-dessus. Sur le positionnement du personnage, du personal branding et de l'incarnation. C'est devenu quasiment lui le produit, en fait, de sa marque.
Après, c'est aussi... Il faut pouvoir le gérer, ça.
Oui.
Donc, ouais. C'est important de savoir si toi, t'es appétant aussi à être exposé, etc. Mais oui, aujourd'hui, je pense que c'est incontournable. Mais moi, en effet, quand je regardais Phoenix, je te vois pas... Enfin, on te voit apparaître, hein, forcément, mais tu portes pas encore la marque autant qu'un Guillaume, typiquement.
C'est vrai. Parce que c'est un projet qui est assez collectif aussi. Hein. On est dans ces nouveaux modèles moins verticaux, plus horizontaux, dans les gouvernances qui sont plus participatives, plus libérées. On laisse de la place à d'autres personnes qui ont apporté leur pierre à l'édifice, et moi j'ai pas vocation non plus à prendre toute la lumière ou à m'approprier tous les succès de la boîte. On y a contribué, c'est clair, on était à l'origine du truc, mais heureusement, grâce à Dieu, on a fait des recrutements qui ont été décisifs, quoi.
Merci. Merci Jean.
Bah de rien, avec plaisir.
Merci d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Bababam, Spotify, Deezer et sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, commenter le podcast et suggérez-moi des profils intéressants. Je me ferai un plaisir de les interviewer dans l'empreinte.